Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans un monde nouveau, le magazine qui conjugue l'avenir au présent. Vous l'aviez déjà remarqué, tout est politique et de plus en plus passif ou actif. Chacun vit désormais un quotidien militant, en creux ou en plein, que l'on soit pro, anti ou rien. Résultat, le temps est à la concurrence des libertés et la pagaille des points levés. Dans ce contexte du tout politique, c'est quoi avoir le courage de ses convictions? C'est ce que j'ai voulu savoir auprès de deux personnalités qui ont repolitisé leur discipline, respectivement le sport et la littérature. Roxana Maracineanu, la combattante ministre des Sports, et Mohamed Mbougarsar, le furieux écrivain de la rentrée littéraire.
France Inter. Mathilde Serrel, un monde nouveau.
De la culture et des idées, des inspirations et des actions jusqu'à 19h, on invite le futur sur France Inter.
Many years have passed, but you're still charming. Rose falling and exploding, you can't save the world. It'll be okay, I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle, I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. I've come to hand weave my own bunk bed ladder in a few short sessions. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything, feel nothing. Do everything, feel nothing. Pat Dad on the head. Alright, you big loud mouth, and thanks very much for the Twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. To make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. That's just child chat. Why don't you want oven chips now? It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these matty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing.
Everything, fear nothing. Faites tout et n'ayez peur de rien. Un nettoyage à sec et ça repart. Dry cleaning à l'instant sur France Inter. Jeune groupe londonien sorti au printemps leur album A New Long Leg, que l'on peut traduire par une nouvelle longue jambe, nous annonce un futur prothétique. C'est une ancienne championne mondiale de natation qui pense l'avenir avec la tête et les jambes. Ministre déléguée au sport depuis 2018, elle est connue et reconnue pour ses combats contre l'homophobie et le sexisme, l'égalité et la diversité. Roxana Maracineanu, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai la délégation française des JO qu'on a entendu dans le journal qui nous rapporte de nouvelles médailles. On a donc l'argent pour Sarah Léonie Sizik en judo, le bronze de la sabreuse Manon Brunet après l'or ce week-end pour Romain Canon, champion olympique d'épée. On compte les médailles toujours, bien sûr, mais les JO, eux, ils ont un peu mauvaise presse dans le futur, Roxana ?
Non, j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, c'est vrai que les JO sortent finalement grandis de cette organisation à Tokyo parce que cette organisation est aussi symbolique au sortir de la crise, au moment où on voit la lumière au bout du tunnel, un petit peu au moins, d'avoir su et pu organiser un tel événement à Tokyo, au Japon, pour permettre aussi au pays de se retrouver, de se réunir et au vivre ensemble, de prendre un peu le dessus dans cette période très compliquée qu'on a vécue depuis 15 mois.
Mais est-ce qu'il y a de nouveaux JO à inventer à l'heure où, lorsque les villes candidates, par exemple, eh bien, elles sont souvent les seules à candidater, donc elles obtiennent cette possibilité, comme Paris en 2024. Mais est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouveaux JO, justement parce que les populations, en fait, comme c'est le cas aussi au Japon, sont de plus en plus hostiles aux coûts, notamment écologiques, de ces Jeux Olympiques?
Je pense que les JO et le mouvement sportif en général, qui les imagine et les organise, suivent aussi l'évolution de la société que nous sommes en train de vivre. Vous avez parlé tout à l'heure d'une affirmation plus forte du sexe féminin, des femmes aujourd'hui dans la société, une libération de la parole aussi sur certains sujets, l'affirmation de certaines parties et catégories de la population qui pensent que le fait d'avoir été victime de certains comportements par le passé, eh bien, c'est important de le dire aujourd'hui et de l'affirmer pour que ça n'arrive plus à d'autres. Et le mouvement sportif a véritablement un rôle à jouer parce qu'il porte certaines valeurs et que ces valeurs, il ne suffit pas simplement de les dire ou d'avoir un bout de papier qui les revendique, mais il faut les incarner et véritablement les faire porter aussi aux acteurs du monde sportif. Et une partie de ces acteurs du monde sportif, c'est les sportifs eux-mêmes.
Vous vous souvenez quand vous étiez une actrice sportive vous-même du monde du sport? On va rembobiner un peu votre fil.
2016, Roxana Marassi à nu, deuxième des Jeux Olympiques.
Roxana Marassi.
Elle est devenue célèbre en 2 minutes 11 secondes samedi dernier à Perth en Australie au championnat du monde de natation. Son nom, Roxana Marasinianu. Pour l'instant, la jeune fille fait fructifier sa médaille d'or du 200 mètres d'eau dans les piscines australiennes, mais tous les jours, elle appelle Mulhouse et ses parents au téléphone.
Allô, papa? Salut, c'est moi. Ça va?
Il y a tout le monde ici qui est atteint, hein. Il y a plein de monde.
Nous avons fait la fête. Nous avons bu des champagnes beaucoup.
Votre maman et votre papa, oui, qui font la fête, c'était au journal de France 2. Hein. Vous aviez donc remporté en 2000 la médaille d'argent, mais avant c'était donc la médaille d'or au championnat du monde. Et beaucoup de champagne donc pour cette famille, votre famille donc qui a fui la dictature de Ceausescu. Roxana Marasinianu, on dit Marasinianu à l'époque à la télévision française. C'est vrai que c'est le nous qu'il faut prononcer à la roumaine. On vous présente à la fois comme une championne des bassins et une championne aussi de l'intégration. C'est un parcours aussi qui est important dans les convictions que vous portez aujourd'hui.
Oui, je pense pas être la seule. On l'a vu avec la première médaille de bronze décrochée aujourd'hui par un Géorgien d'origine géorgienne qui est arrivé à 14 ans en France et qui a connu la possibilité d'accéder au haut niveau et à cette médaille olympique grâce aussi à son parcours sportif en France. Donc tous ces Français aujourd'hui au nom imprononçable qui ramène aussi un certain nombre de médailles et une richesse à la France. Je pense que le sport peut en être fier et le sport peut porter ça beaucoup mieux que d'autres champs aussi de la société, ou en tout cas en même temps que d'autres champs de la société, de mettre en avant la diversité du peuple français et le fait que il est disposé et prêt à s'enrichir aussi de tous ses talents, parfois venus d'ailleurs, mais qui bénéficient aussi aujourd'hui de l'histoire, de l'expérience et de l'apport d'entraîneurs français, de l'apport de la structuration du sport français et qui s'y intègrent très bien et qui en font à leur tour profiter d'autres.
Vous parliez de porter, d'incarner. Ça n'était pas si évident que ça aux Jeux Olympiques. On l'a appris très récemment. Il est désormais possible pour les athlètes d'afficher leurs convictions hors podium. Et ces réunions d'ouverture et de clôture, hein, c'est quand même précisé. Donc ça restreint finalement quand même le champ d'expression. Mais est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez défendu et soutenu, cette prise de position, cette prise de parti des sportifs?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une règle dans la charte olympique, qui est la règle 50, qui est connue de beaucoup de personnes du champ sportif, mais peu du grand public, qui entend préserver la neutralité du sport aux Jeux Olympiques et celle des Jeux Olympiques eux-mêmes. Nous avons aussi dans chaque pays, et spécifiquement en France peut-être plus qu'ailleurs, le fait que les fédérations sportives délégataires doivent assurer une mission de service public au nom de la France, pour la France en tant que délégataire. Et à ce titre-là, ils sont soumis aussi à ce principe de neutralité. Neutralité, ça veut dire qu'on ne peut pas afficher une appartenance religieuse, une appartenance politique, une appartenance syndicale lorsqu'on est dans l'exercice du sport, de la compétition elle-même ou de ses à côté ou de l'organisation de telle compétition. Or aujourd'hui, on voit beaucoup de sportifs qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup qui ont envie d'exprimer leur opinion et nous avons envie qu'ils expriment leurs opinions parce que c'est aussi une manière pour nous dirigeants, pour nous pour les instances sportives aussi elles-mêmes, d'en apprendre plus sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles doivent faire à l'avenir, sur aussi la partie, j'allais dire, leur pouvoir aussi médiatique, et pour faire en sorte qu'ils puissent exister encore plus et faire rayonner ces valeurs du sport au travers de leurs athlètes. Et aussi les valeurs d'humanisme, de partage, ces valeurs fondamentales, des droits humains que le sport prétend défendre. Et donc, c'est toujours difficile pour le mouvement sportif de se positionner entre ce côté « je veux rester neutre », mais en même temps, j'aimerais que mes acteurs, ceux qui sont le plus visibles, le plus en vue, puissent affirmer leurs opinions, parce que ça sert aussi ma cause, ça sert aussi à m'affirmer, vous avez dit
donc
tout à l'heure.
Donc c'est à condition que ça n'aille pas à l'encontre finalement d'un esprit du sport égalitaire et
oui, mais
humaniste.
C'est aussi pour que ça le nourrisse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme vous avez dit, parfois, il se sent vidé de sa substance. Et aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de regagner en contenu. Et c'est les prises de position des sportifs eux-mêmes qui peut aider le mouvement sportif à se repositionner, à exister, à travailler aussi sur l'acceptabilité des événements sportifs qu'il entend continuer à organiser dans différents pays. Et c'est important que les athlètes puissent avoir le droit à la parole, mais toujours dans des règles du jeu qui sont respectées. Et aujourd'hui, le Comité international olympique a pris les devants, contrairement à d'autres instances sportives, notamment dans le football, qui se sont un peu fait rattraper par les événements.
Oui, vous avez ferraillé, hein, Roxana Maracineanu, dans cet espace-là, en exprimant votre conviction, pour le coup, et à la fois sur Twitter et aussi publiquement, en exprimant le fait qu'on ne peut pas confondre, on va dire, des insultes racistes ou homophobes dans un stade avec une liberté d'expression.
Oui, et puis surtout, ne pas confondre aussi l'engagement des sportifs qui prennent la parole pour défendre ces sujets-là, qui sont fondamentaux, qui touchent aux droits des hommes et des femmes, avec un engagement politique, et du coup, que ça les ramène vers cet article 50 de la neutralité. Encore une fois, les sportifs ont la possibilité et doivent avoir le droit de s'exprimer, ne serait-ce que pour une question de faire vivre mieux et plus la démocratie, parce qu'ils sont des modèles dans notre pays comme dans beaucoup d'autres pays, et que, à condition qu'on les récupère pas, qu'on ne récupère pas et qu'on n'instrumentalise pas leurs paroles, je pense qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est moi, en tant que sportive, ce que j'ai déploré à l'époque, que personne ne fasse appel à ce que j'avais à dire ou n'entende ce que je voulais dire ou ne me pose des questions autres que est-ce que tu es contente de ta médaille ou est-ce que tu es contente de ta course. Je pense que des sportifs, avec leur vécu, avec leur personnalité, ont beaucoup plus de choses à dire que simplement une réponse à ces questions-là.
On va remonter à nouveau le temps, Roxana Maracineanu, et nous sommes cette fois-ci le 28 juin dernier. Ce sont les huitièmes de finale de l'Euro de football France-Suisse, 3-0, et une séance de tir au but fatale pour les Bleus.
Quelle pression sur les épaules d'Mbappé.
22 ans,
c'est
Kylian Mbappé.
C'est le joueur que tout le monde attend, c'est le plus jeune de cette équipe de France.
Monsieur Rapalini qui met le sifflet à la bouche. Kylian Mbappé qui regarde Yann Sommer qui prend sa course d'élan. C'est parti, et l'arrêt de Yann Sommer. La France est éliminée de l'Euro 2020. Kylian Mbappé, la star des Bleus, manque le pénalty et la Suisse est en quart de finale.
Alors, suite à cet échec au tir au but de Kylian Mbappé, ce seront des insultes racistes, des messages xénophobes qui vont pleuvoir sur des réseaux sociaux. On parle de politisation du sport et d'engagement des athlètes, mais de l'autre côté aussi, dans la politisation et la polarisation de la société, il y a un déferlement de violence. Kylian Mbappé en a été un exemple aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces dérives-là? On sait qu'en Angleterre, par exemple, les supporters vont être interdits, ceux qui ont proféré des insultes racistes sur les réseaux sociaux, interdits de stade et suspendus.
C'est vrai que parfois, ce qu'on dit, c'est qu'en prenant des positions, ces athlètes vont plus s'exposer à ces insultes, à ces récupérations également. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont prudents. Et quand, dans la réforme un peu que le CIO a mise en place, ce sont les athlètes eux-mêmes qui ont proposé le périmètre d'expression et le périmètre qui doit rester neutre. Vous l'avez dit tout à l'heure, les podiums, les cérémonies, les épreuves doivent rester neutres. Mais en revanche, juste avant de monter sur le tatami pour son combat ou sur la plage de départ, jusque-là, on a le droit, désormais, d'exprimer une opinion, ce qui est quand même une grande révolution. C'est vrai qu'on peut interpréter ça dans ce sens-là. Mais moi, je ferais plutôt l'interprétation inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, il y a des thèmes qui ne peuvent plus échapper au sport et qui inévitablement vont aller vers tous les champs de la société. Et donc, c'est justement dans ce champ-là sportif qu'on peut agir pour arrêter. C'est le fait d'aller trop loin dans certaines expressions qui vont contre
quand on passe de l'opinion au délit.
Voilà, et que on a besoin de l'expression des sportifs pour justement stopper certaines idéologies d'infuser encore plus loin, encore trop loin dans la société, et qu'un positionnement des sportifs sur certains thèmes, la lutte contre l'homophobie, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexuelles,
et inversement,
le racisme.
Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir pour justement réagir ou sanctionner lorsque ce ne sont plus des opinions, mais des délits qui sont proférés sur les réseaux?
Je pense qu'il faut agir dans les deux sens. On a vu que le problème des réseaux est encore plus large que simplement les insultes à l'encontre des sportifs. Il est très large et il faut effectivement qu'on légifère en ce sens. Maintenant, sur ce qui se passe dans le football, dans le rugby, dans tous ces sports qui sont médiatisés, où il y a du public qui s'exprime, effectivement, il faut le réguler. On a commencé déjà à faire un travail avec les fédérations, les ligues sportives, pour qu'elles se positionnent clairement avec le corps arbitral, pour qu'on se positionne sur des arrêts des matchs, pour qu'on se positionne sur des chartes d'éthique et d'intégrité que tout le monde signe, les sportifs, les supporters, les clubs. Donc là-dessus, on a engagé un travail. Et effectivement, il y a aussi l'autre pendant, c'est l'engagement des sportifs, des présidents des fédérations, des têtes des instances sportives, pour qu'ils et elles se positionnent clairement sur ces thèmes et disent ça, on n'en veut pas dans
stade,
le sport, ça, on n'en veut pas dans notre sport et dans notre fédération.
C'est pas encore clair pour tout le monde.
C'est en bonne voie. Alors mon ministère a écrit quelque chose d'inédit aujourd'hui avec les fédérations, le mouvement sportif, qui est un guide de à peu près de 140 pages sur l'éthique et l'intégrité dans le sport, qui est censé accompagner et qui va accompagner les fédérations sportives et également le Comité national olympique et paralympique à se doter de véritables comités d'éthique et d'intégrité, d'une véritable politique en ce sens. Et d'ailleurs, j'en ai fait un levier véritable pour attribuer la délégation et pour attribuer l'agrément aux fédérations qui est
ce point de passage.
Exactement, pour qu'elles deviennent fédérations sportives et qu'elles deviennent fédérations agréées, qui leur ouvrent des droits des financements, qui leur ouvrent aussi le monopole pour organiser les compétitions et dicter les règles d'une
Donc
discipline.
Donc un levier de pression.
Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, on leur donnait délégation que pour organiser des compétitions sportives. Aujourd'hui, ce périmètre est élargi et il y aura des questions d'éthique et d'intégrité qui seront incluse dans ce contrat, contrat moral qu'on passe avec les fédérations. Et ce sera suivi et accompagné par le ministère des Sports et également par le CNOSF et le CPSF, qui sont les organes qui chapeautent toutes les fédérations sportives.
Et par vous donc, personnellement, Roxana Mara, ciné à nous, ce sera l'une de vos œuvres donc, à ce ministère. Vous êtes déléguée au sport, je le rappelle. Merci beaucoup.
Je recompte encore sur les doigts, j'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux mouillés. On s'est desserré, tata. Quand je les regarde, ça se voit. Je crois que c'est gâché.
Son premier EP Contre-jour et sa reprise des mots bleus de Christophe, Johan Papa Constantino signe son retour avec Tata sur France Inter et les nouvelles arabesques.
Un monde nouveau. Mathilde Serrel sur France Inter.
Le monde est déjà nouveau sur France Inter. Une métamorphose en temps réel qu'on cherche ici à scruter de près. Et aujourd'hui avec le renfort d'Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur, et Vanity Fair, le mensuel qui fait de l'actualité un roman. On commence avec vous, Blaise Mao, rédacteur en chef d'Uzbek Erika. Bonjour.
Bonjour Mathilde.
En ligne avec nous, Joseph Ghosn, directeur de la rédaction de Vanity Fair.
Bonjour Mathilde.
Alors, le sixième rapport des experts du GIEC vient de tomber et présente un futur météorologique cataclysmique. Pendant ce temps-là, à Dubaï, Blaise, on tente de combattre la chaleur avec des drones.
Oui, on a pu voir des vidéos très étonnantes du service météorologique des Émirats Arabes Unis la semaine dernière, qui nous montraient des dromadaires en train de chiller tranquillement sous des cascades de gouttes, des SUV en train de rouler à toute berzingue sous d'énormes flaques à cause de ces pluies diluviennes, donc qui se sont abattues sur Dubaï. Alors rien à voir avec les précipitations qui ont ravagé il y a quelques jours l'Allemagne et la Belgique et qui ont été meurtrières, qui ont fait des inondations meurtrières. Non, les pluies de Dubaï, les pluies dubaïotes ne sont pas naturelles, mais bien artificielles. En fait, les Émirats ont investi des milliers de dollars dans une dizaine de projets de recherche différents qui visent à faire pleuvoir artificiellement. Et parmi ces projets, il y en a un qui nous vient de l'université de Reading en Angleterre. Alors, évidemment,
on n'a pas de problème de pluie en Angleterre.
Voilà, ça paraît un peu paradoxal parce qu'a priori à Reading, les précipitations, elles sont déjà au rendez-vous. Mais là-bas, les chercheurs ont quand même mis au point une technique infaillible pour faire pleuvoir artificiellement. C'est très simple, il s'agit d'envoyer dans le ciel des drones qui lancent des décharges électriques dans les nuages. Et en fait, les gouttes d'eau qui sont dans le nuage s'agrègent entre elles. Elles forment des gouttes encore plus grosses qui finissent par tomber sous forme de pluie.
Et est-ce que Dubaï est le seul pays à savoir faire pleuvoir sur commande ?
Non, il y a plein de pays qui sont sur le créneau, sur le coup, notamment la Chine. Alors là-bas, on mise pas sur des drones qui lancent des charges électriques. On mise sur l'ensemencement des nuages, en envoyant dans les nuages de petites quantités d'iodure d'argent, notamment. Et l'objectif, comme à Dubaï, c'est d'éviter des longues sécheresses. mais c'est surtout d'éviter les chutes de grêle qui peuvent détruire des récoltes. Et ça fait un moment que la Chine a déployé ça. Ça a commencé en 2008 au JO de Pékin. Et depuis, chaque événement sportif, militaire, international qui est organisé là-bas est précédé d'une petite séance d'ensemencement des nuages. Ça s'appelle...
Une fausse pluie, c'est la façon d'ouvrir un événement.
Voilà, c'est un peu le rituel, quoi. Il faut nettoyer le ciel avant que l'événement commence. Et ça s'appelle de la manipulation du climat, tout simplement. Et le terme technique, c'est géo-ingénierie. Alors, le mot fait un petit peu peur, mais le GIEC en a une définition très simple. En fait, la géo-ingénierie, c'est un ensemble de méthodes et de techniques visant à modifier délibérément le système climatique pour lutter contre les effets du changement climatique, donc.
Donc emprisonner le gaz carbonique ou faire péter les nuages.
Oui, il y a plein de techniques en fait. C'est pour ça que souvent on parle d'apprentis sorciers parce que c'est des trucs assez spectaculaires, très science-fiction et qui font un peu peur. Il y a piéger le CO2 dans la roche, augmenter un petit peu, stimuler la pompe à carbone de l'océan pour les désacidifier, filtrer le CO2 dans l'air. A priori, ça marche. Le problème, c'est que ça a des conséquences écologiques à grande échelle. La géo-ingénierie n'a pas de frontières, hein, donc si on déploie ça à grande échelle, on ne sait pas trop ce que ça va donner, écologiquement, mais aussi géopolitiquement, en fait. C'est un peu l'hypothèse qu'on explore dans le nouveau numéro d'Uzbek Erika, où on se demande s'il y aura une guerre climatique au cours de ce siècle. Est-ce que les missiles et les tanks vont être remplacés par la production d'un brouillard puissant ou par l'amplification d'une tempête? C'est ce qu'évoque en tout
on
cas...
On se battrait à coup de catastrophe naturelle.
Exactement.
Ça serait le revers sombre de la géo-ingénierie.
Le retour des plaies d'Égypte, mais version Troisième Guerre mondiale, quoi, un peu. Et c'est une hypothèse qui est sérieusement évoquée dans les documents de l'armée de l'air américaine. Alors, on n'en est pas là, donc je ne vais pas non plus affoler tout le monde. Mais c'est mieux de se poser les bonnes questions avant d'en arriver là. Et puis voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a bien vu que du dôme de chaleur canadien aux inondations qui ont ravagé l'Europe, en fait... Le dérèglement climatique, il n'est pas demain, il n'est pas dans 30 ans, il est maintenant. Et pour répondre à cette urgence, la question c'est est-ce qu'on peut se passer de la géo-ingénierie? Est-ce qu'on peut se payer le luxe de s'en passer? C'est ce que nous dit Sophie Gambardella, qui est chargée de recherche au CNRS, spécialiste du droit international de l'environnement. On l'a interviewée dans le dossier d'Uzbek Erika. Elle nous dit, est-ce qu'il nous reste encore le luxe de dire non la géo-ingénierie? On n'y va pas. C'est toute la question.
Merci Blaise. Il y aura beaucoup plus d'infos sur ce sujet encore dans le nouveau numéro d'Uzbek Erika qui consacre un dossier de 25 pages à la manipulation du climat. Joseph Ghosn était avec nous, je vous le disais, directeur de la rédaction de Vanity Fair. Rebonjour Joseph.
Bonjour Mathilde.
Dans le futur de la pop, vous nous annoncez autre chose, vous. C'est qu'une sortie de disque, c'est équivalent à une annonce de sortie de disque.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'attend plus la pluie. C'est-à-dire, on sait que la pluie ne viendra pas quasiment. En fait, depuis plus d'une semaine, une attente devient assez interminable. C'est celle du nouvel album de Kanye West. Via sa maison disque, il y a une semaine, Kanye West avait annoncé la sortie d'un nouvel album qui s'appellerait Donda, en référence au prénom de sa mère, disparue en 2007, et dont la disparition l'a beaucoup, beaucoup marqué, puisqu'il en parle très, très régulièrement. C'est le premier album de Kanye West depuis 2019.
Et on l'attend déjà depuis vendredi soir, cet album.
On l'attend depuis vendredi soir, on l'attend même depuis jeudi dernier, puisque jeudi dernier, en prévision de la sortie officielle, Kanye West avait organisé une écoute en public dans un stade à Atlanta, un stade de 50 000 personnes, et dans lequel il a fait une sorte de happening. Face au public dans les gradins, Kanye était tout seul sur une scène, sur la scène du stade, au milieu du stade, avec des projecteurs, et lui était habillé tout en rouge, de la tête aux pieds, une doudoune rouge, un pantalon rouge, des chaussures orange, et sur la tête, un masque intégral de couleur marron, un peu comme un vieux collant recyclé qu'on se mettrait sur la tête. Hey, welcome to the jungle, welcome to the jungle, well. Il est vrai que ces derniers temps, les dernières apparitions de Kanye étaient toutes de ce même acabit, c'est-à-dire qu'il apparaissait toujours avec un masque qui recouvrait l'ensemble de sa tête, un peu comme s'il voulait disparaître, un peu comme si c'était un signe de la non-sortie de cet album. Mais surtout, Donda, par son absence, pousse les fans à une créativité assez folle. On note par exemple l'apparition de fausses pochettes, de clips amateurs, qui reprennent un peu l'intégralité, résumée en quelques secondes, de l'œuvre et des morceaux de Kanye. Des spéculations en tout genre sur la teneur du disque, c'est-à-dire on se demande si ce sera une continuation de son album précédent, Jesus is King, un album très très gospel. Il y a aussi, et c'est ça le plus marquant sur ces réseaux, l'apparition de cette silhouette tout en rouge de Kanye, remise dans des contextes extrêmement variés. Et Kanye est devenu une fois de plus un mème, c'est-à-dire, vous savez, cette image que l'on recontextualise et qu'on utilise comme un marqueur de l'époque qui est en train de se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui a été entendu dans le stade n'était pas un disque terminé. On dit que ce sont des petits bouts de chansons qui ont été écoutés, puisque au moment de terminer cette chronique, j'apprenais que la date de sortie officielle serait désormais repoussée au 6 août. Et finalement, on se demande, en partant de ça, si c'était ça la pop de 2021, 2022 et des années qui vont arriver, c'est-à-dire des disques dont on dit qu'ils existent, dont certaines personnes ont peut-être entendu des bouts, mais qui finalement ne sortent jamais et que l'on ne fait que fantasmer. Parce qu'après tout, Kanye West qui gagne des fortunes grâce à ses diverses collaborations dans la mode, Kanye West a-t-il vraiment besoin de sortir un disque de plus ? Est-ce que ce dont il a besoin, ce n'est pas juste de continuer à faire parler de lui d'une façon ou d'une autre ?
Donc finalement, dans une époque spectaculaire à grande échelle, on se rend compte que c'est l'événement de la sortie qui compte plus que l'œuvre elle-même. Merci pour cette futurologie de la pop.
Merci.
Joseph
Merci,
Gon. Le nouveau numéro de Vanity Fair, il sort ce mercredi avec une femme d'un monde nouveau en couverture, Virginie Efira. Merci à tous les deux. C'est un jeune auteur sénégalais d'à peine 30 ans. Il occupe à son tour le fauteuil du nouvel écrivain prometteur. Prix Stéphane Hessel, prix littérature du monde, grand prix du roman Métis et prix littéraire de la Porte Dorée après les djihadistes, les migrants, l'homosexualité au Sénégal. Son quatrième roman est une enquête littéraire, la plus secrète, Mémoire des hommes. Mohamed Mbougarsa, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, première question, comme votre narrateur, vous avez aussi vécu peut-être l'expérience de ce lancement qui est plus important que l'œuvre. Il va recueillir 1282 likes en annonçant la sortie de son livre. Il en vendra 79 exemplaires.
Ce qui est déjà énorme, tout le monde en conviendra. Je pense que c'est pas du comparable à Kanye West, parce que Kanye West peut se permettre de le faire. Il ne vendra pas 79 disques. Il faudrait plutôt multiplier peut-être par 10 000 ou par 10 millions, je n'en sais rien. Mais pour les écrivains, c'est une véritable question. Aujourd'hui, le déplacement de l'écriture à l'écriture ou à la réception sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. On a parfois l'impression que les livres font beaucoup plus de bruit là que les pages qui se tournent en réalité.
peut-être assurément une des voix du futur, disparue trop tôt dans les années 70. Minnie Riperton, à l'instant avec Young, Willing and Able. Jeune, volontaire et capable sur France Inter.
France Inter. Un monde nouveau.
Il est jeune, volontaire et capable. Diegan Latirfaille, le narrateur de la plus secrète histoire des hommes, votre livre, Mohamed Mbougarsa, qui est publié aux éditions Philippe Ray, qui est un furieux ouvrage de la rentrée littéraire, car il est en colère, votre narrateur.
Il est en colère, disons qu'il est surtout à la recherche de quelqu'un. Après, c'est en cherchant qu'il se rend de plus en plus compte qu'il y a eu un certain nombre de choses qui sont arrivées à cette personne qui le rendent un peu plus furieux, en effet. Mais lorsqu'on est un jeune écrivain, capable, etc., la colère est toujours une très bonne chose, je pense.
Il est en colère, notamment, alors, par ricochet aussi, puisqu'il est un petit peu déçu de la réception, justement, de ses romans. Mais il est en colère aussi après les aînés de la littérature dite francophone, avec, voilà, les Léopold Sédar Senghor, les Aimé Césaire, qui n'ont pas assez affirmer ce qu'ils étaient, leurs identités, et il se chamaille comme ça avec ses aînés et avec son passé.
Oui, en réalité, par rapport aux aînés, la relation est assez ambiguë. Évidemment, c'est la facilité même de dire que les aînés n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas préparé le terrain, ou que s'ils l'ont préparé, ils l'ont mal préparé, ce qui est peut-être pire. Mais il est surtout, il a une dette envers eux, et il le reconnaît évidemment. En réalité, en littérature, mais cela peut valoir pour beaucoup d'autres choses, on est toujours, je crois, en tout cas dans la création artistique, il y a toujours une généalogie dont on est issu. On vient toujours de quelque part, on ne sort pas de rien, on sort de ses lectures, et même si on ne les a pas aimées, il faut leur reconnaître une réelle valeur. Et pour le personnage de Diegan Latirfaille, c'est le cas, même si évidemment, par coquetterie, autant que par réelle sincérité, il a envers ses aînés une petite dent, mais qui tombera assez vite.
Alors, il a aussi un but, hein, vous l'avez dit, même s'il a une obsession, il ne supporte pas qu'on se demande de quoi parle un livre. Alors, pour ne pas lui faire dommage ce soir, je vais essayer de pas trop résumer, car les bons livres, c'est bien connu, n'ont pas en fait d'histoire à raconter, mais il est quand même sur les traces d'un écrivain mythique disparu et qui a publié en 1938 Le labyrinthe de l'inhumain. On le surnommait à ce moment-là le Rimbaud nègre. On retrouve un petit peu la structure d'un 2666 de Roberto Bolaño. On écoute l'adaptation qu'en avait fait le metteur en scène Julien Gosselin.
C'est un très étrange compte-rendu qui avait été publié dans un journal de Berlin après la publication de Ludique, le premier roman d'Archimbaud. Ce compte-rendu, signé par un certain Schleiermacher, tâche de fixer la personnalité du romancier en peu de mots. Intelligence moyenne, caractère épileptique, culture désordonnée, capacité à fabuler chaotique, prosodie chaotique, emploi de l'allemand chaotique.
À l'instant, donc, 2666 mis en scène par Julien Gosselin, c'est aussi une traque littéraire, comme cet Archibald que vous mettez en place. Et Mohamed Mbougarsa, vous avez décidé, vous aussi, de reproduire ce bruit des comptes rendus, ce bruit des polémiques de l'époque, de recréer une fausse histoire littéraire pour mieux décrire la vraie.
Oui, je ne cache absolument pas la référence à Roberto Bolaño et à 2666, évidemment.
Mais il est aussi en exergue d'ailleurs dans votre livre.
C'est les détectives sauvages qui est en exergue, mais toute l'œuvre de Bolaño en réalité tourne autour de cette question-là, de la recherche de l'écrivain et par-delà lui, de la littérature, du sens de la littérature, de la vérité littéraire, et du sens d'une vocation poétique, etc., etc. Donc oui, dans la plus secrète mémoire des hommes, c'est de cela qu'il s'agit, d'une traque littéraire, d'une recherche du sens, d'un engagement littéraire, et cela se passe dans le milieu littéraire français. Je pense qu'on minore peut-être ce que la France et le milieu le champ littéraire en particulier peut produire comme fiction, je crois. Parce qu'il y a, c'est assez extraordinaire de vivre dans ce champ littéraire, de l'observer depuis des années, de voir ce que ça peut déclencher comme polémique, comme fâcherie, comme duel, comme absurdité, comme amitié également. C'est assez extraordinaire de voir ça, et je crois que c'est un champ qui peut générer à l'infini quasiment des fictions sur ce thème-là. Du sens
c'est de la littérature métalittéraire.
Alors, c'est de la littérature métalittéraire, mais disons cela, je m'empresse de préciser que métalittéraire ici n'est pas du tout au sens savant un peu qui peut rebuter. Quand on dit métalittéraire, il s'agit évidemment d'une réflexion sur la littérature par la littérature, mais plongée dans la société, dans la vie la plus concrète qui soit, par les gens les plus concrets qui soient. C'est qu'il ne s'agit pas de dire que c'est de la littérature métalittéraire qui ne serait destinée qu'aux étudiants, aux professeurs spécialistes de Barthes et de Jeannette. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit surtout de dire que la littérature est plongée à l'intérieur de la société et qu'on peut, tout en vivant, réfléchir aussi à la littérature, puisque la littérature et la vie sont peut-être une seule et même chose.
En tout cas, vous essayez de répondre à cette question. La littérature est l'aveu que la vie ne suffit pas, disait Fernando Pessoa, le poète. Vous, finalement, vous dites que la vie suffit, mais que la littérature est nécessaire pour nous en sauver.
Absolument, je vous vole cette formule-là.
Alors, vous parlez de l'époque, justement, tout à l'heure je citais ce livre qui sort, qui est extrêmement liké, bravo, fier, génial, et puis à peine acheté. Il y avait aussi des personnages qui sont là, en fait, pour nous dire l'époque. Par exemple, Eva Awa, qui est une influenceuse, elle milite pour toutes les bonnes causes morales du temps, et en plus, elle est entrepreneur, coach en self-empowerment, mannequin de la diversité et exemple galactique. Évidemment, comme c'était à craindre, et comme l'incontinence littéraire est une des maladies les plus répandues de l'époque, elle n'a pas pu se retenir d'écrire. C'est ce qu'on peut lire donc dans ce livre, La plus secrète histoire des hommes, Mohamed Mbougarsa. Il y a une volonté, à travers cette quête littéraire, en fait, de ne pas faire un portrait en effet absolu de la littérature, mais de l'époque.
De toutes les manières, c'est absolument impossible de faire un portrait de la littérature. Elle est tellement diffractée, plurielle, multiple dans ses origines, dans ses significations, que ce serait peine perdue. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir ce que l'époque fait de la littérature, ce que l'époque fait de la réception de la littérature, et ce que l'époque, et plus précisément la société française d'aujourd'hui, et puis celle des époques antérieures, fait aussi de la réception de textes littéraires qui viennent d'ailleurs, ou d'écrivains qui viennent d'ailleurs, entre guillemets. Il s'agit là, et en l'occurrence ici, il s'agit d'un écrivain africain, pour le personnage que Diegan Latirfaye cherche. Il s'agit de Diegan Latirfaye lui-même et de ses camarades dont vous venez de faire le portrait de l'une d'entre elles dans l'époque contemporaine.
Et on va dans cette époque justement contemporaine et sa façon de regarder les écrivains francophones, prometteurs, africains. Il y a finalement un regard dont vous essayez de vous laver, de vous débarrasser, Mohamed Mbougarsa. Et notamment en essayant de s'affranchir des ambiguïtés, vous dites, des aînés. Ambiguïtés confortables et humiliantes.
Oui, alors je vais me défausser sur mon personnage, évidemment, parce que il l'a bien mérité, mais disons que dans la réception d'un certain nombre de textes, il y a toujours, je pense, des qualificatifs qui viennent comme des clichés recouvrir le sens véritable des textes eux-mêmes. Il y a tout un voile, tout un jet de fumée comme ça, qui semble dispenser de lire véritablement les écrivains. Comme si les réduire à une caractéristique, les réduire à une sorte de genre, les réduire aussi à un ton, suffisait à les caractériser et dispenser de faire ce qu'il faut réellement faire lorsqu'on est devant la littérature, à savoir la lire, se confronter à elle, à sa difficulté, et arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Donc, j'essaie de m'en débarrasser, mais pas nécessairement. D'ailleurs, j'ai employé le mot de colère tout à l'heure. C'est pas le mot de colère tout à l'heure. C'est pas tout à fait de ça. C'est plutôt par le rire, par la dérision, par la parodie, par l'humour, et par le fait simplement de renvoyer de temps en temps au lecteur un miroir. Chaque époque a eu à faire face à ça. Les réponses que les aînés ont apportées ne sont pas celles que Diegan Latirfaï apporte, mais les deux réponses ont un seul et même lien, c'est la tentative toujours de s'affirmer et de sortir des clichés et des caricatures.
Alors, vous allez chercher le lecteur avec un mélange d'une langue extrêmement extrêmement chatière et à la voix extrêmement vulgaire. Et puis aussi, vous allez lui renvoyer ce miroir en parlant de la réception, justement, des écrivains recouverts parfois de clichés. Vous parlez d'une intransigeance de la minorité paresseuse et du cliché du lecteur occidental avec sa charité pour le texte du jeune écrivain africain.
Cela peut arriver. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement, vraiment. Un jour, j'étais dans un salon littéraire assez connu, un festival littéraire assez connu, et une femme, de façon tout à fait bienveillante, est arrivée et m'a félicité parce que je recevais un prix ce jour-là. M'a dit « Merci beaucoup, nous vous sommes vraiment reconnaissants à vous. » Donc, qui était ce « vous » Je ne le sais pas. « Nous vous sommes très reconnaissants à vous de nous parler du monde. » Donc, je me retrouvais là à signer son exemplaire, à me dire « Me voilà Atlas, je porte le monde sur mes épaules. » C'est moi qui ai la responsabilité, comme écrivain africain, en l'occurrence, de lui parler du monde. Donc, tout cela m'a fait un peu rire. Cela aurait pu énerver certains. Mais je pense que parfois, l'on ne se rend pas compte, même dans la bienveillance, des cases que l'on dresse et dans lesquelles on veut mettre un certain nombre de livres ou une certaine littérature.
Alors, il y a des livres qui changent tout, parfois, et il faut préserver cette multiplicité et cette diversité. C'était ce qui a été fait il y a 40 ans avec la loi sur le prix unique du livre, portée par Jack Lang. On a décidé de la célébrer tout l'été sur France Inter, et de vous demander aussi à vous un livre d'un jeune auteur.
Alors, un livre d'un jeune auteur... Alors, il y en a beaucoup, énormément, qui me viennent à l'esprit, là. Et pour ne fâcher personne, je vais... En fait, tout dépend de ce qu'on entend par jeune auteur. Je pense que les livres sont toujours jeunes, d'une certaine manière. Voyez comme je suis habile et comme j'évite la réponse. Tous les livres sont jeunes quand on les lit différemment. L'important, c'est de toujours venir avec des yeux neufs, en réalité, comme disait Proust d'une certaine manière. Donc, lisez ou relisez Roberto Bolaño, n'importe quel texte, ce sera très très bien.
Donc, un livre jeune ou un jeune auteur, c'est avant tout un jeune lecteur dans sa tête. Oui. Merci, Mohamed Mbougarsa, la plus secrète mémoire des hommes. Je ne vous dirai pas de quoi ça parle, c'est à vous de le lire. C'est aux éditions Philippe Ray. Eh bien, Le Monde Nouveau, sachez-le, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Camille Poujalaguet, Marie Mougin à la programmation et préparation de l'émission, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc qui nous ont rejoints cet été à la technique ce soir. Pierre-Yves Dorolin et puis Un Monde Nouveau, c'est fini pour ce soir. Mais on se retrouve dès demain avec Chassol, entre autres.